Bonjour, c'est José ou Hans Jürgenand. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un satsang. Donc, pour les pratiquants de la voix, ça fait partie de la sadhana, de leur pratique, avec la méditation et le service. Pour les autres qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas demandé à recevoir la révélation, qui ne l'ont donc pas reçue, le satsang est utile aussi parce qu'il n'est pas impossible que parmi les paroles dites durant cette compagnie de la vérité, ce satsang, alors le satsang est toujours improvisé et enregistré et puis ensuite mis par écrit. Bien, parmi ces phrases improvisées, il n'est pas impossible que se trouvent des choses qui peuvent éclairer les non-pratiquants, les non-initiés, et même à les pousser à demander à recevoir la révélation. Le titre de ce satsang est « Le gourou a-t-il un ego ?» L'éveil, comme la réalisation, ne fait pas de vous quelqu'un d'autre. Celui que vous étiez restera. Alors, une petite incise, hein, l'éveil, je parle de celui qui fait les éveillés. Ça se dit Bouddha, voilà, celui qui fait les Bouddhas. Je ne parle pas de l'éveil dont on parle actuellement, de ceux qui ne croient pas les informations des chaînes d'information mainstream ou les paroles des gouvernants, hein, et qui se méfient de tout ce qui est énoncé comme une vérité et qui cherchent à vérifier auprès d'autres sources d'information si ce qu'on leur dit à la télé ou à la radio est une vérité ou pas. Je ne parle pas de cet éveil-là, je parle de l'éveil mystique qui fait les Bouddhas. L'éveil, donc, comme la réalisation ne fait pas de vous quelqu'un d'autre. Celui que vous étiez avant d'être éveillé restera. À ce propos, il n'y a pas un jour où vous pourrez vous dire « Tiens, j'ai réalisé !» et où vous pourrez cesser de pratiquer les quatre piliers de l'Agya. La réalisation est dans l'instant. Réaliser signifie que tout ce que l'on fait, même les choses les plus triviales, comme ses courses, son ménage, écrire, marcher, on garde une partie de son attention sur le Saint-Nom. Alors le Saint-Nom, hein, c'est pas un nom, hein, qui est ça. Non, c'est un nom qu'on a donné à quelque chose qu'on pourrait appeler le souffle de vie, l'énergie vitale, Dieu, enfin, la vertu du Tao, le Satnam, etc. Ego et faux ego. Que se passe-t-il pour un vrai guide ou gourou? Alors gourou, G-U-R-U, pas G-O-U-R-O-U, gourou, comme disent les médias et les organismes officiels qui parlent de gourou pour parler d'un escroc mégalomane, pervers et un gourou, dans le sens indien du terme, c'est-à-dire un maître. Que se passe-t-il pour un vrai guide ou gourou? Il n'a plus d'ego, de faux ego, de mental. Pour l'ego, bien sûr qu'il en a, hein. Sans ego, pas de conscience. Donc, ne confondons pas ego et faux ego. La plupart du temps, quand quelqu'un dit ego, il a un ego surdimensionné, il a trop d'ego, etc. Il ne parle pas de l'ego, en fait. Il parle du faux ego, ce qu'on appelle le faux ego dans des livres comme la Bhagavad Gita, par exemple, ou le Bhakti Marga. Le faux ego, la vanité. L'ego, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est marié à l'âme pour qu'elle s'incarne et qu'elle puisse dire « moi, je ». Voilà. Donc, bien sûr qu'il en a un ego. L'éveillé, enfin le gourou. Sans ego, pas de conscience. Hein. Tant qu'on est incarné, on a un ego. Il est l'enveloppe qui garde l'âme dans le corps. L'ego, c'est le libre arbitre, c'est grâce à lui que l'on peut décider de se donner à Dieu, ou non. C'est ce qui fait l'humanité. Le libre arbitre est aussi générateur de confusion, du faux ego. Alors voilà, voilà ce que c'est que le faux ego. C'est le résultat de la confusion. Une médaille a toujours deux faces. Quant au mental, il est lié au corps. Et sans lui, vous seriez dans un coma, dans un coma, dans un coma sans fin. Ce qui change chez un guide authentique. Alors, c'est quoi un guide authentique? C'est un guide, un éveillé. Un éveillé dans le sens que l'on dit pour un Bouddha. Hein, pas, encore une fois, un éveillé, quelqu'un qui se réveille au sens critique, qui se réveille à la beauté de la vie, qui se réveille, qui a un sursaut mystique. Non, non, je parle d'un éveillé qui est passé par la case Nirvikalpa Samadhi, qui a fondu sa conscience dans l'unité et qui en ressort imprégné de discernement, etc. Ce qui change chez un guide authentique, un éveillé, c'est qu'il n'écoute pas le faux ego. Il en a un, comme tout le monde. Il a de la vanité, de l'amour. L'amour propre, c'est autre chose. C'est pas négatif, l'amour propre, bien au contraire. Je parle de la vanité. Dans le mot vanité, il y a quel mot, à votre avis? Vain. Vain. Pas 2 × 10. Hein. Pas le vain. Le vain, V-A-I-N. Hein. Inutile. Hein. Bien sûr que l'éveillé, Bouddha, Krishna, Lao Tzu, Jésus, avaient de la vanité, un faux ego aussi. Hein. La différence, c'est qu'il le distingue de lui-même. Il ne s'identifie pas au faux ego. Il le voit venir avec ses gros sabots, comme Jésus pendant 40 jours dans le désert, quand le faux ego ou le diable lui susurrait à l'oreille des choses pour le pervertir. Hein. Ben, l'éveillé, il ne l'écoute pas. Le faux ego lui susurre des choses à l'oreille, mais il ne les écoute pas. Il n'en tient aucun compte. Le maître ne s'identifie jamais au faux ego. Je sais d'où vient ce questionnement. Le faux ego, quand il voit que l'âme du chercheur est décidément attirée par la spiritualité, j'ai envie de dire comme le guide authentique, parce qu'il y a spiritualité et spiritualité, hein. L'astrologie n'est pas de la spiritualité. Je ne juge pas l'astrologie, hein, mais ce n'est pas de la spiritualité. Par exemple, l'astral, ce n'est pas de la spiritualité. C'est de l'ésotérisme, si vous voulez, mais ce n'est pas de la spiritualité. Alors quand le faux ego voit que le mental de l'individu est très enraciné dans la recherche de la vérité par la spiritualité, qu'est-ce que vous voulez? Il s'habille en moine, hein, le faux ego, et tient des discours aux couleurs spirituelles. Alors il imagine un gourou parfait, mort de préférence, ou qui habite loin et qui n'a pas de relation directe avec les disciples. Pourquoi? Pour ne pas risquer d'être remis en cause, d'être contrarié. C'est facile, hein, un maître mort. Il ne peut pas vous contrarier. C'est comme je disais à quelqu'un, mais il faut un maître. Mais j'en ai un maître. Bah, avec curiosité, je lui demande, tu as quel maître? Il me dit Krishnamurti. Je dis, mais Krishnamurti est mort. Bah oui, mais je lis ses livres. Un maître, ça doit être en présentiel, comme on dit maintenant. Ça doit être en présentiel. Avec... Tu dois pouvoir lui parler au maître. Il doit pouvoir te répondre. Sinon, tu te poses toutes tes questions et tu trouves tes réponses dans les livres. Mais les livres s'interprètent comme on veut. Regardez, il n'y a pas 2 personnes qui interprètent le Coran, la Bible, les Védas de la même manière. Il faut demander à l'auteur du livre, qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui, vivant, pourra vous dire c'est juste ou c'est pas juste. Ainsi, tranquille dans son coin, le faux ego, devenu ego spirituel, pourra fabriquer sa petite spiritualité comme il l'entend, sans risque pour lui. Alors quand un guide le remet en cause, met le doigt là où ça fait mal, sur ses contradictions, quand il dévoile ses manigances, il dit au guide « Tu es plein d'ego spirituel, croyant tout savoir et incapable d'écouter. » Mais dit-on à un professeur d'université d'écouter? Y a-t-il quelqu'un dans l'amphithéâtre qui se lève et qui crie au professeur émérite qui est en train d'expliquer, de donner son cours, le remettons en question? Non. Qu'un guide ait de la vanité ou pas, qu'il se la pète ou pas, le guide, que vous importe, je veux dire. Vous devriez vous occuper de la vôtre de vanité, pas de celle du guide. De remettre l'humilité, alors je précise, l'humilité n'est pas la modestie, de remettre l'humilité du guide en cause, est-ce que ça va vous faire progresser? Qu'est-ce qui va vous faire progresser? De remettre votre vanité en cause, sans vous occuper de celle de l'autre. C'est comme deux professeurs. L'un relève tout ce que disent ses élèves, argumente, rétorque et polémique. L'autre donne son cours sans tenir compte du brouhaha que les élèves font. Alors ceux qui veulent écouter, prendre des notes, ils le font. Ceux qui ne veulent pas écouter, c'est leur vie. Hein. C'est leur problème, c'est pas le problème du prof. Pardon. Le faux ego peut partir dans des digressions intellectuelles à propos de tout et de rien. Celui qui est dans la conscience n'entre pas dans ces digressions. Vous, les pratiquants de la voie, vous pouvez observer l'agya, ces quatre piliers, pour rester dans un état de conscience neutre, profond, objectif et clair. À force de fréquenter cette paix intérieure, vous finissez par vous en imprégner. Alors le mental vous aide par la compréhension dont il vous rend capable. Il devient votre allié, le mental, et pas votre ennemi. Il est sous contrôle de l'âme. Mais votre personnalité et votre faux ego ne changent pas. C'est pas parce que vous êtes dans la conscience de la béatitude que votre passé existentiel change. Que vos traumatismes n'existent plus, que votre éducation ne pèse plus rien dans votre comportement et dans le fonctionnement cognitif de votre cerveau. Mais votre personnalité et votre faux ego ne changent pas. Ils ne sont pas concernés par la béatitude. On ne peut pas améliorer le faux ego ou la vanité par la béatitude. Alors, pourquoi voudriez-vous qu'elle les change ? La conscience de l'instant présent n'efface pas les souvenirs du passé, pas plus que les traces que ce passé a laissées sur vous. Simplement, en restant dans l'instant, vous sortez de la confusion, des projections et des souvenirs. Cessez de pratiquer et le passé se rappelle à vous. Surtout, ne tenez aucun compte des discours du faux ego ni de ses questions, parce qu'il est comme cet enfant qui questionne sans écouter les réponses. Restez maître de vos pensées. Ne vous laissez pas dominer par l'affect. Une citation qui suit, ouvrez les guillemets. La libération est pour celui qui sent... Alors la libération du cycle des réincarnations. La libération est pour celui qui, sans colère et maître de ses désirs, connaît sa vraie nature et observe la sadhana. Fermez les guillemets. Alors, la sadhana, c'est le pack, l'ensemble, le bouquet de choses à faire dans une pratique spirituelle. Bhakti Marga, ou le livre de la voie, livre 2, chapitre 2, verset 22. Ça ne s'invente pas. Vous, les initiés ici, vous vous rendez compte que vous êtes sortis du salon, de la pratique, de la technique dite du salon. Revenez-y et vous le retrouverez tel que vous l'aviez quitté. Il ne change pas. Le salon est la seule base solide que vous ayez. Je me souviens que nous avions coutume de dire à l'ashram où je vivais en Inde qu'une seconde de salon effaçait des années de confusion. Ce satsang est maintenant fini. Je vais donner un petit cours rituel de bol et je vous quitte.